Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 4, des besoins de l'industrie et des idées d'un homme seul qui jouit de tous ses sens. Chapitre 2. De l'état d'un homme abandonné à lui-même et comment les accidents auxquels il est exposé contribuent à son instruction. Circonstance où la statue ne se borne pas à l'étude des objets propres à la nourrir. La statue étant instruite des objets propres à la nourrir sera plus ou moins occupée du soin de sa nourriture suivant les obstacles qu'elle aura à surmonter. Ainsi, nous pouvons la supposer dans un séjour où, tout entière à ce besoin, elle n'acquerrait point d'autres connaissances. Si nous diminuons les obstacles, elle sera aussitôt appelée par les plaisirs qui s'offrent à chacun de ses sens. Elle s'intéressera à tout ce qui les frappe. Par conséquent, tout entretiendra sa curiosité, l'excitera, l'augmentera, et elle passera tour à tour de l'étude des objets propres à la nourrir à l'étude de tout ce qui l'environne. Elle s'étudie. Tantôt la curiosité la porte à s'étudier elle-même. Elle observe ses sens, les impressions qu'ils lui transmettent, ses plaisirs, ses peines, ses besoins, les moyens de les satisfaire, et elle se fait une espèce de plan de ce qu'elle a à fuir ou à rechercher. Elle étudie les objets. D'autres fois, elle étudie plus particulièrement les objets qui attirent son attention. Elle en fait différentes classes, suivant les différences qu'elle y remarque, et le nombre de ses notions abstraites augmente à proportion que sa curiosité est excitée par le plaisir de voir, de sentir, de goûter, d'entendre, de toucher. La curiosité lui fait-elle porter les yeux sur les animaux? Elle voit qu'ils se meuvent et se nourrissent comme elle, qu'ils ont des organes pour saisir ce qui leur convient, des yeux pour se conduire, des armes pour attaquer ou pour se défendre, de l'agilité ou de l'adresse pour échapper aux dangers, de l'industrie pour tendre des pièges. Et elle les distingue par la figure, les couleurs et surtout par les qualités qui l'étonnent davantage. Surprise des combats qu'ils se livrent, elle est bien plus encore lorsqu'elle remarque que les plus faibles déchirés par les plus forts répandent leur sang et perdent tout mouvement. Cette vue lui peint sensiblement le passage de la vie à la mort, mais elle ne pense pas qu'elle puisse être destinée à finir de la même manière. La vie lui paraît une chose si naturelle qu'elle n'imagine pas comment elle en pourrait être privée. Elle sait seulement qu'elle est exposée à la douleur, qu'il y a des corps qui peuvent l'offenser, la déchirer. Mais l'expérience lui a appris à les connaître et à les éviter. Elle vit donc dans la plus grande sécurité au milieu des animaux qui se font la guerre. L'univers est un théâtre où elle n'est que spectateur, et elle ne prévoit pas qu'elle en doive jamais ensanglanter la scène. Accident auquel elle est exposée. Cependant, un ennemi vient à elle. Ignorant le péril qui la menace, elle ne songe point à l'éviter, et elle en fait une cruelle expérience. Elle se défend. Heureusement, assez forte pour se soustraire à une partie des coups qui lui sont portés, elle échappe. Elle n'a reçu que des blessures peu dangereuses. Mais l'idée de cet animal reste présente à sa mémoire, elle se lie à toutes les circonstances où elle en a été assaillie. Est-ce dans un bois? La vue d'un arbre, le bruit des feuilles mettra sous ses yeux l'image du danger. Elle a une vive frayeur parce qu'elle est faible. Elle la sent se renouveler parce qu'elle ignore encore les précautions que sa situation demande. Tout devient pour elle un objet de terreur parce que l'idée du péril est si fort liée à tout ce qu'elle rencontre qu'elle ne sait plus discerner ce qu'elle doit craindre. Un mouton l'épouvante, et pour oser l'attendre, il lui faudrait un courage qu'elle ne peut encore avoir. Revenue de son premier trouble, elle est presque étonnée de voir des animaux qui fuient devant elle. Elle les voit fuir encore, et elle s'assure enfin qu'elle n'en a rien à craindre. À peine commence-t-elle à secouer son inquiétude que son premier ennemi reparaît, ou qu'elle est même attaquée par un autre. Elle échappe encore, non sans en avoir reçu quelque offense. Comment elle apprend à s'en garantir? Ces sortes d'accidents l'inquiètent, la troublent à proportion qu'ils se multiplient davantage et que les suites en sont plus fâcheuses. La frayeur qu'elle en a occasionne dans toutes les parties de son corps de violents frémissements. Les dangers passent, mais les frémissements durent ou se renouvellent à chaque instant et en retracent l'image. Incapable de faire la différence des circonstances, suivant qu'il est plus ou moins probable qu'il est à l'abri de pareils événements, elle a la même inquiétude pour un péril éloigné et pour celui qui la menace de près. Souvent même, elle en a une plus grande. Elle les fuit également tous deux, parce qu'elle sent toute sa faiblesse quand elle a attendu trop tard pour se garantir. Ainsi, sa crainte devenant plus active que son espérance, elle en suit davantage les mouvements, et elle prend bien plus de précautions contre les maux auxquelles elle est exposée que de mesures pour obtenir les biens dont elle peut jouir. Elle s'applique donc à reconnaître les animaux qui lui font la guerre. Elle fuit les lieux qu'ils paraissent habiter. Elle juge de ce qu'elle a à en craindre par les coups qu'elle leur voit porter à ceux qui sont faibles comme elle. La frayeur de ces derniers redouble la sienne. Leur fuite, leur cri l'avertissent du danger qui la menace. Tantôt, elle s'étudie à l'éviter par adresse. Tantôt, elle se saisit pour sa défense de tout ce que le hasard lui présente. Suppléée par industrie, mais avec bien de la lenteur aux armes que la nature lui a refusées, apprend peu à peu à se défendre, sort victorieuse du combat et flattée de ses succès, elle commence à se sentir un courage qui la met quelquefois au-dessus du péril ou qui même la rend téméraire. Alors, tout prend pour elle une face nouvelle. Elle a de nouvelles vues, de nouveaux intérêts. Sa curiosité change d'objet et souvent plus occupée de sa défense que du besoin de nourriture, elle ne s'applique qu'à combattre avec avantage. Autres accidents. Elle est bientôt exposée à de nouveaux maux. La saison change presque tout à coup, les plantes se dessèchent, le pays devient aride, et elle respire un air qui la blesse de toutes parts. Elle apprend à se vêtir de tout ce qui peut entretenir sa chaleur, et à se réfugier dans les lieux où elle est plus à l'abri des injures du ciel. Cependant, souvent exposée à souffrir longtemps par la privation de toutes sortes de nourriture, c'est alors qu'elle use de la supériorité que l'adresse ou la force lui donne sur quelques animaux. Elle les attaque, les saisit, les dévore. N'ayant plus d'autres moyens pour se nourrir, elle imagine des ruses, des armes. Elle réussit d'autant plus dans cet art que le combat lui devient aussi essentiel que la nourriture. La voilà donc en guerre avec tous les animaux, soit pour attaquer, soit pour se défendre. C'est ainsi que l'expérience lui donne des leçons, qu'elle lui fait souvent payer de son sang. Mais pouvait-elle l'instruire à moins de frais? Conclusion. Se nourrir, se précautionner contre tout accident, ou s'en défendre et satisfaire sa curiosité, voilà tous les besoins naturels de notre statut. Il détermine tour à tour ses facultés et il sent le principe des connaissances qu'elle acquiert. Tantôt supérieure aux circonstances, elle ouvre une libre carrière à ses désirs, d'autrefois subjuguée par les circonstances, elle trame elle-même ses malheurs. Si les succès sont traversés par des revers, les revers sont aussi réparés par des succès, et les objets semblent tour à tour conspirer à ses peines et à ses plaisirs. Elle flotte donc entre la confiance et l'incertitude, et traînant ses espérances et ses craintes, elle touche d'un moment à l'autre à son bonheur et à sa ruine. L'expérience seule la met insensiblement au-dessus des dangers, l'élève aux connaissances nécessaires à sa conservation et lui fait contracter toutes les habitudes qui la doivent gouverner. Mais comme sans expérience il n'y aurait point de connaissances, il n'y aurait point d'expérience sans les besoins, et il n'y aurait point de besoins sans l'alternative des plaisirs et des peines. Tout est donc le fruit du principe que nous avons établi dès l'entrée de cet ouvrage. Nous allons traiter des jugements que la statue porte des objets, suivant la part qu'ils ont à ses plaisirs ou à ses peines.